Bien, bonjour à tout le monde. Nous continuons notre session concernant les diplomates comme acteurs sur la scène politique du Moyen-Orient. Vous vous rappelez, nous étions partis de cette réflexion d'Arnold Toynbee en 1923 dans The Western Question, dans laquelle il notait que les gens du pays considéraient que les guerres locales n'étaient que des guerres pour les autres. Et Toynbee disait, il y a une part de vérité dans cette affirmation. Les puissances occidentales sont bien des protagonistes de cette guerre à distance et les populations souffrantes en sont les pions. Et ensuite, il imagine une pièce de théâtre qu'il appellerait les Patriotes, avec des personnages comme Alarm en 1923, Masaryk, Venizelos, Stambolinsky, Pilsudski, Faisal, Mustafa Kemal, des hommes vivant dans un rêve, dit-il, comme Pitt ou Napoléon. Et puis on verrait la réalité représentée par les bureaux et les couloirs du Quai d'Orsay ou de Downing Street. Il y ajoutait la place des observateurs, un cœur impuissant de commentateurs comme lui. Et donc, moi, je suis dans le cœur des commentateurs impuissants. Et nous avons là quelqu'un qui vient des couloirs de la diplomatie. Nous avons donc le grand bonheur de recevoir aujourd'hui l'ambassadeur Nassif Etti, d'origine libanaise, qui a fait des études prestigieuses à l'Université américaine de Beyrouth et puis à l'Université de Californie du Sud. Et voilà, qui a intégré le corps diplomatique libanais et puis ensuite est entré à la Ligue arabe où il a eu d'importantes fonctions, en particulier en France, il a été ambassadeur à l'UNESCO et surtout pendant très longtemps, heureusement pour nous d'ailleurs, ambassadeur de la Ligue arabe à Paris. Et maintenant, il a quitté la voie diplomatique parce qu'il y a des limites d'âge, paraît-il. Et donc... il enseigne à l'Université du Saint-Esprit au Liban, dit catholique pour les intimes. Mais il parcourt aussi le monde pour faire des conférences, parce que M. Etti peut être considéré, ou était considéré, il l'est toujours, comme un des hommes les mieux informés du Moyen-Orient. Donc, la fois précédente, avec Mme Chahid, nous avions vu un peu le diplomate comme acteur. Là, le diplomate comme informateur, je dirais. Je l'ai vu en action, j'ai des souvenirs éblouis. Je me rappelle un soir au Caire, je crois que j'étais invité à dîner à l'ambassade, c'était Couserans, je me souviens ça. Et il y avait M. Rocard de passage, donc c'était un petit dîner, il y avait 10 personnes. Et toi, tu es arrivé, tu venais des bureaux de la Ligue arabe pour prendre le café. Et en 20 minutes, on a fait à toute vitesse le parcours de la situation politique régionale avec les dernières informations venant du siège de la Ligue arabe. Et évidemment, les informations qu'il donne à la diplomatie française, il en reçoit de la diplomatie française qu'il donne ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a un système circulaire d'information. Et c'est exactement ce qu'il va nous faire maintenant, non pas un dîner de l'ambassadeur après les chocolats, mais en votre présence. Nassif, c'est à toi.
Merci bien, chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous, de retourner. Je retourne souvent, je fais la navette, pas diplomatique à la Kissinger, mais la navette au niveau personnel avec Paris. Quand on termine sa vie diplomatique, nous avons un mot qu'on dit d'habitude, on s'est débarrassé de sa cravate. Donc je me suis débarrassé de la cravate et j'ai repris la normalité de la vie. Parce que souvent on dit que c'est une déclaration diplomatique pour dire, pour ne rien dire. Voilà, donc moi j'appartenais à une école, comme tu viens de le confirmer, la diplomatie du choc. Bon, il faut utiliser de bons termes, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est une question de votre crédibilité. Et donc c'était souvent critique et critiqué, et j'ai l'honneur d'être critiqué par... beaucoup des États arabes à certains moments difficiles, parce que pour la crédibilité de ce monde arabe, ce qui n'était pas chose facile à faire, il fallait dire certaines vérités, mais la présenter d'une certaine manière. Je suis aussi content de venir après ma collègue Leila Shahid, avec qui aussi j'ai partagé les bancs à l'Université américaine de Beyrouth. la période où on était tous des perturbateurs avant de devenir des diplomates. Le Bliss Street, on voulait changer le monde dans les années 70, puis on était éjectés chacun dans une direction ou dans une autre. Je voudrais au début parler un peu du Moyen-Orient, quels sont les grands défis, les grands enjeux, les grands axes et tout ça. Et je dis souvent à mes étudiants maintenant, choisissez le Moyen-Orient comme spécialité, vous êtes sûr d'avoir un boulot pour les 5 siècles à venir. Je suis très optimiste de nature. 5 siècles, c'est garanti, peut-être un peu plus que ça. Mais un des grands problèmes, je commencerai par ça, c'est que parfois on vient vers ce domaine, et je parle sous le contrôle d'un grand spécialiste, avec des idées reçues, conçues. Bah, j'achète, pardon, les chaussures et puis je me coupe le pied pour utiliser ces chaussures. Mais il faut comprendre la situation. Il faut avoir ce que les Américains disent « the smell of the street ». Il faut sortir. Pour moi, toujours un bon diplomate, vous allez dans la rue, vous discutez avec les gens, vous ne restez pas avec, comment dirais-je, vos collègues à se dire des gentillesses. Donc, il faut essayer de comprendre les choses, parce que si on veut faire passer un message, il faut comprendre où passer ce message, il faut contextualiser et le messager et aussi le but de ce message et le contexte de ce message. Moyen-Orient, défis et enjeux. Mon argument, je ferai des remarque, comme on dit, d'une manière télégraphique pour pouvoir après aller beaucoup plus dans chaque point. Nous vivons dans un ordre régional anarchique ou désordonné. Je m'expliquerai immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Ce n'est pas des règles juridiques, mais des règles d'entendement entre les États. On a eu ça à certaines périodes de temps, on va clarifier ça. Il n'y a plus de ces règles. Vous voyez un gouvernement qui parle directement au-dessus de la tête d'un autre gouvernement, remettant en question la légitimité de ce gouvernement. Dans ce cas-là, ce n'est plus un système néo-westphalien. Je ne dirais plus westphalien. On peut critiquer, mais il y a une certaine logique d'État et on laisse aux autres d'ouvrir le Pandora Box dans ces critiques. Un ordre caractérisé par quoi ? Cet ordre désordonné. L'absence, la défaillance ou l'affaiblissement presque total des règles et des normes qui gèrent d'habitude les relations de conflit et de coopération entre les États. Les relations de conflit sont aussi normales que les relations de coopération, sinon il n'y aura jamais de diplomate, nous serons au chômage dès le premier jour de notre vie professionnelle. Mais comment gérer ? Quelles sont les règles de gestion, de management de crise ? D'escalade, de désescalade, c'est un peu ça. Donc, on n'a plus aucune règle actuellement entre les États. Donc, voilà, ça, c'est un problème basique. Nous ne sommes plus dans une logique de système interétatique. Nous sommes dans une logique de système transétatique. Je vais m'expliquer. On voit, par exemple, parfois le comportement d'un gouvernement comme l'Iran ou la Turquie qui dit que ce gouvernement n'est pas légitime dans un autre pays ou que j'ai le droit directement de critiquer et d'appuyer directement publiquement. Ce n'est pas que les autres n'appuient pas d'une manière plus discrète. Donc les règles de jeu changent. Il y a un changement majeur dans ces règles de jeu. Les ingérences par les acteurs non étatiques, en leur nom, au nom de certains États, je vais aller beaucoup plus en détail, au nom de certaines idéologies transnationales, qu'elles soient religieuses, sectaires, communautaires, tribales, ethniques, tout ça, font le jeu. Actuellement. Ce qu'on peut constater, on a toujours eu peur au Moyen-Orient de la prolifération des armes nucléaires. Et on avait parlé de ça une fois, j'ai une bonne mémoire. Ce qui m'inquiète beaucoup plus maintenant, plus que ça, parce que ça c'est gérable encore, c'est la prolifération des États faillis, en voie de défaillance. Il y a une très grande, et surtout en voie de défaillance. Faillis, je peux dire là, ce qu'on appelle le cas de la Somalie, la somalisation, la Syrie, bien sûr, la Libye. Mais les pays en voie de défaillance sont énormes, à commencer par mon propre pays. Je garderai quelques remarques pour parler du Liban à propos de ça. Donc voilà. Et puis nous sommes devant, avant d'énumérer certaines choses basiques, certaines très basiques, structurelles, nous sommes devant une trilogie, ce n'est pas la trilogie de Najib Mahfouz bien sûr, dommage, une trilogie de guerre qui s'étend du golfe d'Aden au Yémen, au golfe de Sirte, en Libye. Toute cette région est intégrée d'une façon ou d'une autre au niveau culturel, au niveau idéologique. Les facteurs transnationaux en étaient toujours là. Mais il y a une différence entre les utiliser au niveau sociétal et avoir une politique officielle dans ce sens. Quelles sont nos trois guerres, cette trilogie de guerres? On a une nouvelle guerre froide. On a vécu dans les années 60 une guerre froide régionale entre un groupe de pays conservateurs dirigé par l'Arabie saoudite et un groupe de pays révolutionnaires dans le temps dirigé par Nasser, l'Égypte. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, cette guerre froide régionale, où vous avez d'un côté l'Iran, de l'autre côté une alliance arabo-américaine. Pas tous les pays arabes, mais une certaine majorité. Donc, il y a au niveau du discours politique, on essaie de décrédibiliser l'autre. On ne parle pas d'une logique étatiste, on parle d'une logique révolutionnaire, anti-statu quo, à l'égard de l'autre, indépendamment d'où on se positionne, de ce côté ou de l'autre côté. Ça, ce n'est pas mon problème à moi, mais ce que je dis, le langage diplomatique remet directement en question. Je suis là pour vous abattre, vous êtes l'ennemi d'office fixé dans le temps et dans l'espace. Donc, une guerre froide, c'est la première, qui suit une escalade dangereuse maintenant, particulièrement. Quand on va aller après vers la Syrie et vers les conflits actuels, on va voir qu'ils sont entièrement otages à ces guerres, qu'ils ont été déraillés par cette guerre. Une deuxième guerre qui n'est pas moins simple, qui est d'ailleurs beaucoup plus compliquée et dangereuse, c'est une guerre civile régionale, où les acteurs de cette guerre sont de partout. Quand on regarde le territoire syrien, beaucoup de ceux qui se battent en Syrie, au nom du même Dieu, mais d'une certaine interprétation. C'est notre guerre de 30 ans, maintenant. C'est un réveil de la Kerbala, du paradigme de Kerbala. Indépendamment d'avec toi, on essaie de cacher ça. Je viens mourir pour le prophète, mais en tant que chiite, ou en tant qu'adoptant une position sunnite. Cette guerre civile, d'un certain sens, où des acteurs non étatiques, ou même des individus, rejoignent ces mouvements non étatiques et viennent se battre. Vous pouvez trouver un yéménite en Syrie, un Européen de deuxième, troisième génération d'origine maghrébine qui se bat en Syrie, et ainsi de suite, le Hezbollah de Liban se bat en Syrie. Donc, le territoire n'est plus le territoire national, c'est le territoire de la Ummah, de la nation, qui a une Ummah communautaire, pas une Ummah territoriale ici. Bien sûr, je me bats pour le régime ou contre le régime, mais ça, ça convainc personne. On se bat, les États le font, pour des points de vue stratégiques, qui profitent de ces organisations, mais ces gens qui mobilisent ne mobilisent pas pour maintenir un régime autoritaire ou néo-autoritaire ou démocratique ou avoir ça. Donc cette guerre civile régionale est, à mon avis, un aspect très important, très malheureux, de cette transnationalisation active. Notre professeur, le feu Boutros Boutros-Ghali, parlait de la solidarité sociologique dans le monde arabe, qu'elle soit arabe, islamique, pas islamiste, islamique, identitaire, et qui fait les choses. Ça, on le découvre partout, comment pour la question palestinienne, j'ai ouvert les parenthèses, ça peut mobiliser des gens du Maghreb ou du Mashrek au nom d'une certaine Ummah. On peut y croire, on peut ne pas y croire. Mais ça, c'est autre chose ici, cette guerre. Là, on va se battre pour l'élimination de l'autre, d'une logique exclusive. L'autre est l'ennemi absolu, par ses connaissances, mais par son appartenance surtout. Et ça, c'est plus grave. Une troisième guerre, des guerres civiles. On a des guerres civiles ou des conflits qui ont commencé pour des raisons socio-économiques et autres, on en parlera un peu plus comme exemple en Syrie, ont été immédiatement pris comme otages aux guerres des autres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de raison interne, nationale pour ces guerres, mais maintenant, quand la Turquie ou l'Iran, il y a un jeu de chaises musicales, change de position, ou les Américains ou les Russes, c'est pas pour un régime plus démocratique ou moins démocratique. Comme exemple, avant de passer après à la Syrie, quand la Turquie est passée d'un ami intime au régime de Bachar al-Assad à un ennemi farouche de Bachar al-Assad, en un clin d'œil, c'était pas parce qu'ils ont découvert qu'il n'est plus un régime démocratique, c'est parce qu'il allait beaucoup plus vers l'Iran qu'ou vers eux. C'est la logique des États, dans tous les cas. Nous ne sommes pas avec Mère Thérèse ici, avec le respect, c'est ça. Mais qu'on ne dise pas qu'il y a des valeurs ici, morales, dans ce jeu-là. Il n'y a aucune valeur morale dans ce jeu-là, on le verra quand on s'approchera beaucoup plus de la Syrie. Donc ces trois guerres, chacune alimente l'autre. Et chacune trouve une légitimation dans l'autre. J'interviens au nom, comme État, bien sûr, d'une certaine cause stratégique, mais dans la réalité, ceux qui se battent pour des questions légitimes et, si je peux dire ça en un seul mot, pour des questions identitaires. nous revenons à l'identité basique. Et l'identitaire aujourd'hui est ça. Quelques remarques en général avant de passer à nos crises. Les printemps arabes, je dis les printemps arabes, on a eu la première vague et maintenant nous sommes avec la deuxième vague. Loin de la théorie d'Agatha Christie, on a un problème culturel dans le monde arabe, l'interprétation toujours de conspiration. Il y a toujours une conspiration, George Bush est derrière le fait que quelqu'un a un problème avec son frère au village. Ce n'est pas de dire que les Américains n'ont aucune responsabilité ou les autres, mais pour qu'une conspiration réussisse, il faut que le terrain soit très prêt pour cette raison-là. Donc, loin de cette théorie d'Agatha Christie, les printemps arabes ont été immédiatement pris comme otages aux guerres des autres. Immédiatement. Choisissez n'importe quel pays, sauf des pays où l'État est très fort, très puissant, tel que l'Égypte. Mais que ce soit en Syrie, en Libye, jusqu'aujourd'hui en Irak, au Yémen, ce qui se passe tout le temps au Liban, et ainsi de suite, immédiatement la question a été détournée, a été enlevée, pour d'autres raisons. L'attraction fatale de la géostratégie, de l'importance géostratégique, est un problème pour un pays. Je viens d'un pays qui connaît ça très bien, qui connaît par sa place géopolitique. Donc, ces printemps arabes, comme le deuxième printemps arabe qui a commencé avec l'Algérie, le Soudan, le Liban, l'Iran, je dirais, de certaine manière, mais l'Irak aussi, surtout l'Irak, a été pris otage. Maintenant, quand vous écoutez des déclarations de ceux qui sont pour le statu quo, que ce soit au Liban ou en Irak, parce qu'ils contrôlent la situation côté iranien, c'est toujours un complot américain. Il n'y a rien que ça, qu'un complot américain qui veut faire ça. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas comploter, tout le monde complote, c'est la règle du jeu en diplomatie, mais qu'il y a un problème de base, qu'il y a un problème d'autonomie de base ici, de causalité de base. Donc voilà, un grand problème, c'est que si on règle la question du haut vers le bas par un understanding, un entendement de dernière minute, comme on a fait ça plusieurs fois au Liban en 1976, avec Taif après, on ne règle pas le vrai problème. Et maintenant, les vrais problèmes sont pires, parce que ce sont les vrais problèmes qui touchent au ventre de l'être humain. On va passer sur ça. C'est un problème de socio-économique, d'aggravation de la question socio-économique. Je reviendrai vers ça. Deuxième point, c'est le réveil ou le retour en force des identités meurtrières de notre ami Amin Maalouf, des identités sous-nationales qui sont basées ou qui créent des solidarités transnationales. Je me bats en tant qu'appartenant à une ethnie ou à une communauté religieuse ou sectaire. Je suis chrétien ou je suis maronite, je suis musulman ou sunnite ou chiite, je ne sais pas quoi, kurde ou arabe, assyrien ou je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Et ça dit une seule chose, ça dit une chose très très vraie et très claire, c'est la faillite totale, on a découvert ça un peu tard peut-être, de la construction nationale. Il n'y a pas eu de construction nationale, mettons l'Égypte à côté dans ces nouveau-nés, pays nouveau-nés, qui n'ont pas plus que de 100 ans, moins de 100 ans particulièrement. Donc il n'y a pas eu de construction nationale au niveau de la population, je ne parle pas au niveau de l'élite qui parle la même langue, même s'ils ont des différences politiques. Ça révèle ce qu'on a toujours su, mais ça confirme l'échec de la construction nationale. Si je ne peux pas fonctionner en tant que gauche ou droite pour un régime autoritaire, interventionniste ou néolibéral ou libéral, mais immédiatement je me retrouve dans ma communauté trans-étatique, transnationale, dans ma umma qui est en contradiction avec la umma nationale, c'est la umma communautaire, ça c'est un problème. Donc ces solidarités engendrent des interventions et des ingérences, invitent des interventions et des ingérences qui sont considérées légitimes d'une manière ou d'une autre. Vous regardez autour de vous au Mashrek, que ce soit ceux qui se battent du côté anti-Iran ou pro-Iran, ils considèrent que c'est un devoir sacral de faire ça, ou national, ou de survie qu'il faut faire ça, si c'est tribal à la Libyenne, quand vous connaissez un peu la situation libyenne, même les islamistes sont divisés autour de problèmes régionaux, mahalli, iqlimi, ou même ethniques. C'est plus fort. Il y a une idéologie ici est plus faible, même une idéologie islamiste est plus faible que l'appartenance première dans ces alignements. Donc ça, c'est ma deuxième remarque dans ces observations structurel, c'est ce que j'appelle les game changers, les facteurs de changement, de transformation. Troisième facteur, c'est que ces identités meurtries et meurtrières. Certaines ont peur du passé et certaines ont peur du futur. Et tout le monde se bat pour éviter l'avenir et revenir vers le passé ou pour oublier le passé et créer un nouvel avenir. Vous le constatez en faisant une analyse simple du discours de ces gens-là. Tout ce monde-là se bat à travers les acteurs non étatiques, transnationaux, comme je dis, en Syrie, en Libye, partout. On peut constater ça en regardant de proche la carte de ces conflits. Même maintenant, avec la deuxième vague de ces conflits, bon, ce n'est qu'au début encore, mais ces problèmes peuvent être enlevés, pris en otage. Déjà, on le voit en Irak, ça n'a pas changé. Le Soudan, pas encore. L'Algérie suit un autre rythme, mais ça peut aussi déboucher à un problème d'ordre, comment dirais-je, communautaire, pas religieux, mais ethnique. Et le Liban, be my guest, comme on dit. C'est un champ de vraiment, comment dirais-je, d'apprentissage de ces problèmes. Je ne peux pas ne pas être cynique, malheureusement, je viens de Beyrouth, donc. Et ce qu'on trouve que de Bagdad à Beyrouth et du golfe de Sana'a au golfe de Sirte, vous avez cet engrenage de tous ces conflits ensemble. Quatrième observation dans ces genres, la crise de ces régimes qui sont souvent plus forts que les États. C'est que ces régimes qui prétendaient être des régimes progressistes et qui sont nés d'idées progressistes ont été finalement pris otage par les militaires et finalement par une famille d'un militaire. Regardez la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Algérie, c'est ainsi de suite. Le Yémen, c'est le fiston ou le gendre ou le gendre ou le fiston, mais ça a commencé avec une idéologie très attrayante, moderniste, mais les militaires ont pris la charge et puis une famille ou une équipe et ainsi de suite. Les régimes sont plus forts que l'État en particulier parce qu'ils n'ont pas créé vraiment des institutions étatiques. Ils ont personnalisé, ils ont privatisé l'État. Et ils ont en même temps, d'une manière ou d'une autre, étatisé la société pour tout. Donc c'est un vrai problème, c'est la crise profonde de l'État. Et parce que ce sont des nouveaux États. Je mets à côté la Turquie, je ne parle pas des pays arabes, que des pays arabes, mais surtout l'Égypte. L'Égypte c'est autre chose. La Tunisie jusqu'à un certain point, il y a un tissu national fort. Là-bas, vous n'avez pas ça donc. C'est cette unité dans la diversité qui est quelque chose de très important, mais qui n'a pas été approfondie, cimenté ou maintenu. Donc voilà un tout petit peu, ça, avec cette décrédibilisation des idéologies d'intégration telles que le panarabisme, le pan-syrianisme et tout ça, avec le retour d'idéologie, le pan-islamisme qui a remplacé ça, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant de verser dans le pan-sectarisme, sunnisme et chiisme. Donc c'est une invitation au péché dans le sens à casser des États ou des pays ou des sociétés qui sont des sociétés de diversité, qui doit être une source d'enrichissement. Donc j'ai parlé aussi de la prolifération des États défaillants. Le grand problème maintenant, et à ne pas se cacher derrière son doigt, c'est la montée des conflits sectaires. Ce que j'appelle, j'utilise le paradigme, et on a parlé de ça une fois, de Kerbala maintenant. Ceux qui se battent en Syrie, un Français d'origine maghrébine ou un Belge d'origine maghrébine qui va rencontrer le bon Dieu sur le chemin du sunnisme, de son sunnisme radical, ou un chiite qui vient du Pakistan, du Yémen, et pourtant ils ont leur guerre, de l'Irak ou du Liban pour se battre en Syrie. C'est vrai, il fait l'affaire de la stratégie d'une puissance avec laquelle il est allié, ou peut-être il n'est pas allié, elle profite de lui, mais il se bat, il est prêt à sacrifier sa vie, au moins ça, pour ses convictions religieuses, absolutistes. Donc c'est une guerre de religion, c'est une guerre, c'est ce que j'appelle le Kerbala, le paradigme de Kerbala. Sunnites, chiites, et tout le monde veut le cacher. Donc, mais ça, c'est une réalité qui s'installe et qui vraiment pousse à une restructuration de ces sociétés, déjà en échec. Alors voilà un tout petit peu, je passe au facteur Daesh, qui a pu intégrer pratiquement, et je parle en connaissance des causes, hein, je voyais des pays qui étaient pratiquement diamétralement opposés, des pays arabes, sur beaucoup de questions stratégiques. Et que certains ont profité à un certain moment par omission, pas par commission, par omission du facteur Qaïda et du facteur Daesh. Mais finalement, le feu est arrivé dans toutes les pièces de la maison. On pensait que ça va être chez le frère ou chez la sœur ou au salon, pas dans ma chambre à coucher. Et quand ça a touché à tout le monde, croyez-moi, je vous le confirme, ce n'est pas une analyse, c'est une information, tout le monde travaille. Je préfère quelqu'un qui est autocrate, qui est je ne sais pas quoi, mais comme disait Kissinger, il y a un numéro de téléphone que je peux appeler pour dissuader. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, qu'est-ce que je vais faire moi? Comment je vais dissuader? Donc c'est un facteur d'intégration dans un autre sens. Pourtant, beaucoup ont profité d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui reste le problème majeur chez nous, c'est le problème économique, socio-économique. Et on n'a fait que qu'indiquer ça. J'ai fait partie secrètement, parce que j'étais encore diplomate, j'ai travaillé dans ces projets, Henri les connaît très bien, du PNUD, le PNUD, le Bureau des Pays Arabes, UNDP, depuis 2001-2002, sur toutes ces questions de la démographie, de l'économie, du tissu social et sociétal. Et les participants étaient tous des spécialistes arabes. D'accord. Et la constatation était là. Ça va exploser, les amis, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. Demain, là, il y avait des différends. Je vous parle des années 2000. Donc, ça devait exploser. Ce que j'ai appelé le choc des deux D, la démographie et le développement, mais c'est le sous-développement. Et je me rappelle très bien, j'ouvre les parenthèses, j'étais à Alger pour donner quelques conférences à la faculté de droit en sciences politiques, et il y a un concept arabe franco-algérien, les haïtistes, ceux qui se tiennent contre le mur. Haït, haït, mur, qui se tiennent. Et un ami, un ambassadeur algérien me disait, tu sais, la jeunesse, c'est typique des pays arabes et tout ça, ils sont là, il n'y a pas d'avenir. Et mon commentaire qu'il me rappelle tout le temps, j'ai dit, écoutez, ces gens veulent émigrer, ceux qui ne peuvent pas émigrer dans la géographie vers l'Europe, ils vont émigrer dans l'histoire, vers l'islamisme radical. Et ça, c'est très vrai. On a besoin d'émigrer. Ce n'est pas une question seulement financière. C'est une question de sentiment d'humiliation. Je ne suis pas autonome. J'ai 24 ans, 25 ans, 26 ans. Je ne suis pas autonome. Donc voilà un tout petit peu ce choc, pire que le choc soi-disant à la mode civilisationnelle, c'est ce choc entre la démographie jeune, qui est une chance pour nous. Donc voilà, le fossé se creuse entre riches et pauvres. Je vous livre quelques petites statistiques. 10% de la population dans le monde arabe contrôle presque 61% du revenu national. 60% de la population presque, rapport PNUD 2016, le taux n'a pas varié beaucoup, à moins de 30 ans. C'est une chance. Mais aussi, c'est une bombe qui n'est plus à retardement, qui a explosé, les amis. Le taux de chômage... On peut être fier dans le monde arabe, je ne peux pas résister à être cynique, qu'on a le plus haut taux de chômage parmi les jeunes, 10,6%, le double du taux de chômage de la région derrière nous. Si ce n'est pas une préparation, si ce n'est pas le chemin d'une explosion, je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà un tout petit peu ces facteurs structurels qui sont là. Et avant de parler de ces quelques crises, je dirais une chose, que même un entendement, un règlement de grandes politiques, comme c'est le cas souvent, de haut en bas, de haut vers le bas, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais il n'est pas suffisant, ne réglera pas les problèmes de fond. Le problème de fond qui est socio-économique, qui est une question d'inclusion, que ce soit identitaire ou socio-économique, s'il n'est pas adressé, vous pouvez l'endiguer, le contenir, le supprimer pendant un certain bout de temps, mais vous ne pourrez jamais l'éliminer entièrement. Une chose qui nous rappelle ça, et je passerai à ça après, la question palestinienne. Ils ne sont pas sur le radar politique actuellement du monde arabe, mais ça ne veut pas dire qu'un Palestinien ne sent pas qu'il est palestinien et qu'il a le droit à un État, comme tout le monde. C'est une petite parenthèse. Donc là, je passe à ces conflits. Le Yémen, je pense, est en voie, nous sommes sur la route, mais très lente, avec plein d'obstacles, de règlements. Il y a beaucoup de contacts tertiaires à travers un pays qui a toujours joué un rôle très important, à mon avis, de grande sagesse diplomatique, c'est le Oman. Oman est toujours là pour écouter, pour être bridge builder, bâtisseur de ponts, forum pour un débat, et ainsi de suite. Et maintenant, tout le monde sait que bon, c'est une guerre aussi par procuration. C'est une guerre par procuration, c'est une confrontation, comme je dis, de guerre civile, mais régionale, mais aussi confrontation de guerre froide et de guerre stratégique entre l'Arabie saoudite et ses alliés, et l'Iran et ses alliés, entre autres. Mais il faut se pencher sur cette question et voir Tout le monde a changé de donne. Les Houthis, qui sont maintenant considérés les ennemis farouches des Saoudiens et de leurs amis, ce sont ceux qui se sont battus, appuyés par les Saoudiens et les autres, contre Nasser dans les années 60. Donc, pour vous dire que c'est le jeu des chaises musicales, en fin de compte. Ce n'est pas une question de choix fixé dans le temps. Mais le Yémen reste un problème relativement facile à gérer parce qu'il n'est pas son emplacement, il ne subit pas de grands problèmes de placement géostratégique tels que la Syrie ou la Libye. Je passe à la Libye et je reviendrai à la Syrie. Pour la Libye, dès le premier jour, le colonel Kadhafi a fait d'un pays qui est désertique géographiquement un pays qui est désertique institutionnellement. Il n'y avait plus d'institutions. Il a cassé toutes les institutions, même qui mal fonctionnaient. Et donc, on s'est trouvé dans une situation de désertification institutionnelle totale et de retribalisation, parce qu'il jouait. La place de la Libye, le grand problème de la Libye, c'est sa place entre l'Europe et l'Afrique, cette porte centrale au Maghreb, mais aussi. Et un autre grand problème de la Libye, malheureusement, c'est le pétrole libyen, qui fait que beaucoup de nos amis européens agissent maintenant comme la Ligue arabe. On a la même déclaration, mais en réalité, on fait des politiques diamétralement opposées. C'est pas mal qu'on copie sur la Ligue arabe, que nos amis européens le font, c'est pas mal. Donc, on a des prises de position, on a l'Égypte d'un côté, les Émirats et l'Arabie saoudite, qui sont avec le clan Haftar, le Marshal, pour des raisons, parce qu'ils considèrent que l'autre clan de Sarraj inclut les islamistes, qu'ils appellent modérés ou pas modérés. Et de l'autre côté, il y a la Turquie et le Qatar qui appuient ça. Donc c'est le même jeu pratiquement. On change le nom de pays, mais la guerre par procuration est là. Mais ceci dit, le terrain est fertile et le terrain invite à ça, particulièrement. Donc, à mon avis, plus le problème tribal et régional, je dis régional sous-national, les appartenances sous-nationales et tribales en Libye sont beaucoup plus importantes que les appartenances idéologiques, qu'elles soient libérales ou islamistes de tendances différentes. On voit ça. Donc, nous sommes dans une situation de quadrature du cercle du fait de l'emplacement de la Libye qui pose un danger énorme, pas seulement aux Européens, de par les distances proches, mais surtout au Maghreb. Et c'est un passage entre l'Afrique et l'Europe. Et dans une situation où on attend l'inconnu en Algérie, où la Tunisie n'est pas sortie entièrement de l'auberge de ses problèmes, donc ça agace avec la possibilité d'avoir une consolidation, je ne dis pas d'avoir une, mais une consolidation d'une arrière-base terroriste qui est très active en Tunisie et en Algérie et peut-être ailleurs à partir de la Libye. Le no man's land est utilisé dans ce sens, dans ces pays-là. Nous allons vers la Syrie, que j'appelle le conflit de tous les conflits. Je ne parle pas de la Syrie parce que ce sont les voisins, on a toujours eu des relations assez particulières, love-hate relationship libano-syrienne, c'est un couple assez bizarre. Dans tous les cas de figure. Chacun invite l'histoire à sa manière et chacun part de l'avenir à sa manière. Mais pour ce qui est de la Syrie, on a pu constater très brièvement qu'il y a une construction de plusieurs étages de conflit au début. Le conflit à la base syro-syrien, le conflit à la base aussi, on monte d'un étage et on trouve un conflit d'appétit impérial de la part de l'Iran et de la Turquie. Pour la Turquie, c'est la porte de la sublime porte. Pour l'Iran, c'est le passage, c'est le pont vers la Méditerranée. Donc c'est une fonction stratégique. On monte à un autre étage, le paradigme de Kerbala qui revient, des guerres transnationales qui sont conduites par des acteurs non étatiques. On monte un palier et nous sommes dans une confrontation, pas tous les Arabes, une majorité d'Arabes, avec l'Iran, et puis américano-occidentaux, russes, mais là, ce n'est pas très difficile à gérer. Ce qu'on trouve maintenant, si je peux faire le constat, parce qu'on peut parler des heures sur la Syrie, que le régime n'a pas perdu la guerre, mais il n'a pas gagné, il ne gagnera pas la paix. Dans le temps, nous avions une nanny, j'utilise le terme anglais, qui s'occupait de nous au Liban, qui s'appelait la Syrie, qui a été envoyée par les Américains et les Occidentaux, et tout le monde au début, et les Arabes, depuis 89, même 76, et puis elle aura fait le sale tour pour jouer seule. La Syrie a maintenant deux nannies, deux patrons, l'Iran et la Russie. Et croyez-moi que les espaces de conflictualité, même s'ils sont cachés, sont plus grands que la conflictualité entre chacun de ces pays et les autres. Qui va avoir ce port, qui va avoir l'autre port? Est-ce que la Russie accepte d'avoir un partage de façade maritime avec l'Iran, de la Syrie, sur la Méditerranée? C'est une question. Au nord, la Turquie veut profiter de l'accord d'Adana de 1998, de la droit de poursuite des Kurdes signé avec le régime du père, pas du fils. Je fais un passage qui est assez vite pour établir une zone de facto de turquification. Certains disent un Alexandretta allégé, parce que l'Alexandretta, l'Iskandaroun, est plus arabe que tous les arabes. Mais c'était un cadeau occidental aux Turcs pour maintenir Mosul, ça sent le pétrole, du côté irakien. Vers le sud-ouest, on voit ce que certains pensent que ça ne peut pas être le cas, ceux qui voient les choses d'une manière très idéologique, que les relations 13 sommets russo-israéliens pour décider que le Golan restera comme il était du temps du père et du fils. Et là, il y a une confrontation iranienne avec la Russie sur cette question, parce que l'Iran veut faire du Golan une extension du sud du Liban. Et là, il y a ce conflit-là. Donc, pour vous dire que est-ce que le Golan va être stabilisé et rester tel qu'il était, enlevé au fait de devenir un théâtre de confrontation par procuration israélo avec les autres, comme le sud ou Liban, ou il restera tel qu'il était. Donc, voilà ce qui se passe dans ce sens-là, ce que je vois, l'attraction fatale de la place géopolitique, et je me rappelle de la Syrie, fait l'affaire de ça. Je me rappelle de Patrick Seale, The Struggle for Syria, qui nous disait souvent, le feu Patrick Seale, que la géopolitique ne change pas. Bon, les acteurs, les idéologies changent, les agendas changent, que la Syrie, c'est l'Allemagne du Moyen-Orient. Celui qui contrôle la Syrie contrôlera le Levant, finalement. Et maintenant, l'espace de confrontation en Syrie, c'est un espace qui s'étend de baie à baie, de Bagdad à Beyrouth. On voit les Israéliens qui agissent ici et là, on voit les pro-iraniens qui agissent ici et là, on voit les Russes, on voit tout le monde qui agit ici et là. La question aujourd'hui, c'est comment départager le gâteau syrien par des zones d'influence. Et je me retrouve devant, ici, quatre possibilités, avant de faire une dernière remarque sur la question peut-être palestinienne, sur quatre possibilités. On a quatre scénarios dans la région. L'État n'est plus une sanctité à ne pas toucher, n'est plus sacral avec la fin de la guerre froide. On a pu constater ça avec les créations, bien sûr, de l'Érythrée, mais on a pu constater ça finalement, on a deux Soudans. Et maintenant, l'ancien Soudan est en train de faire la médiation chez le nouveau Soudan. Parce que la minorité d'hier, il y a maintenant une majorité et une minorité. Donc, si on n'y a pas un règlement de contrat social, on va rester tomber dans la même chose. Donc, à mon avis, il y a les possibilités suivantes. Il y a la soudanisation de certains pays, mais impossible de le faire en Syrie parce que ça cassera, ça balkanisera l'Orient. Mais c'est une possibilité, quelque part, je ne sais pas, en Syrie ou ailleurs. Moi, je l'écarte, mais c'est une possibilité. Le Soudan est en marge, donc c'est plus facile. Et il y a la somalisation, ce qu'on appelle un conflit permanent, qui perdure, où il y a un État qui existe offshore, un État qui est un ambassadeur à l'étranger, qui est, bien sûr, d'après les règles des conventions de Genève et de Vienne, il est reçu comme tout le monde. Mais sur le terrain, c'est une fédération réaliste d'émirs de guerre, Omara Harb, de princes de guerre. La somalisation est là. C'est un cas typique d'État failli, point à la ligne. Troisième cas, c'est la solution à la libanaise de ce qu'on appelle, Aaron Lippert appelait la démocratie consociative, que le politologue Michael Hudson a appliqué au Liban. C'est le partage entre les communautés. Et c'est un partage, c'est une formule qui invite aux ingérences tout le temps. Ça dépend si votre patron, votre ami, je ne suis pas très diplomate, votre patron, votre ami externe est plus fort aujourd'hui ou plus faible aujourd'hui. Et aussi chez le jeu des chaises musicales, qui est la communauté dominante. Le communautarisme politique, pas la communauté en tant religieusement, le communautarisme politique dominant. Nous sommes dans cette phase au-delà de Taif, au Liban maintenant. Je garde le Liban pour la fin. Donc voilà où sommes-nous maintenant. Pour ce qui est de la question palestinienne, avant de passer au Liban, et de ne pas abuser du temps, pour ce qui est de la question palestinienne, il me semble, c'est vrai qu'elle n'est pas sur le radar politique, mais malheureusement, nous sommes en train de sombrer de nouveau dans la situation d'un seul État, mais un État à l'Afrique du Sud ancienne, un État de ségrégation. Jusqu'à quand peut se tenir cette chose-là? Impossible. Deuxième possibilité, très brièvement, je peux répondre, clarifier les questions. Ce que j'appelle les trois États, l'État d'Israël qui existe, et puis deux mairies, avec tout le respect, ou deux provinces, celle de la Cisjordanie et celle de Gaza connectée à l'Égypte, ce que l'Égypte refuse, et celle de la Cisjordanie connectée ou sous le joug des Jordaniens, ce que les Jordaniens refusent. Donc, Israël prend plus de territoire et moins de population, plus de terres, moins de démographie. C'est une version qui appuie la première. Troisième état, troisième possibilité, c'est le retour à l'idée de deux États. Et de mes 35 ans dans la Ligue arabe, je pense que la grande chose qui a été faite, vraiment, avec un grand courage, une grande lucidité, c'est le plan de paix arabe de Beyrouth de 2002. Une approche qui va au-delà de paix dans le sens contractuel et juridique, pour parler d'une normalisation de relations, mais on ne peut pas mettre les choses à l'inverse. On ne commence pas à travailler ensemble, et puis vous décidez si je dois exister comme État. État national palestinien, et après tout est négociable. Mais nous sommes très loin parce que ça nécessite deux choses, un équilibre de force sur le terrain qui force la main d'Israël à accepter ça. Deuxième chose, que cette question palestinienne soit sur le radar, le vrai radar politique, pas le radar officiel de la Ligue arabe. Nous savons maintenant, c'est l'anecdote, j'étais au Caire lundi, mais pas à la Ligue arabe, j'étais avec des amis avant la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères qui a duré 2 heures pour discuter de la politique américaine révisionniste de monsieur Trump, qui maintenant vit un Noël permanent. Il offre des cadeaux des Palestiniens, des Syriens, de tout le monde. Le Golan est pour Israël, la Cisjordanie est pour Israël. Si vous touchez à ça, vous êtes antisémite, vous êtes je ne sais pas qui et quoi. J'aurais aimé qu'il offre, moi j'aurais aimé avoir la Californie où j'ai fait mes études, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le demander ou tout ça. Bon. Ce qui m'inquiète dans ça, et je ne dis pas ça parce que je suis libanais arabe et je suis fier d'être arabe, aussi que libanais, c'est que certains peuvent sacraliser le conflit, inviter le bon Dieu. Si vous invitez le bon Dieu, nous l'invitons de l'autre côté aussi. Si quelqu'un me dit que quelqu'un, tout le monde a droit, parce que le bon Dieu leur a promis cette terre, à ma connaissance, le bon Dieu n'a jamais été un agent immobilier. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai fait le collège des frères pendant 13 ans, donc j'avais 5 messes toute la semaine. Bon, si vous invitez le bon Dieu, moi-même, j'ai eu une discussion une fois, je ne révèle pas un secret, en Antenne 2, avec une ambassadeur israélienne qui est du Parti travailliste, du Labour. Et elle disait, moi, je n'ai pas de problème, mais beaucoup de mes compatriotes dans la religion co-religionnaire croient que le bon Dieu leur a promis la Cisjordanie. J'ai dit, écoutez, à ma connaissance, le bon Dieu n'a jamais été un agent immobilier. Et si c'est le cas, moi, je suis libanais, j'enlève ma casquette d'ambassadeur, et le bon Dieu, je suis maronite, chrétien maronite, m'a promis Notre-Dame de Paris. Elle m'a dit, vous n'êtes pas sérieux. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieuse. Je n'interviens pas dans ce que votre bon Dieu, qui est le même bon Dieu, vous a promis. N'intervenez pas dans mon bon Dieu. Pourquoi je deviens révisionniste, réactionnaire? Vous invitez le bon Dieu. Je termine sur ce point, sur cette question-là. Nous sommes dans la cage de l'ascenseur. Au rez-de-chaussée, c'est un conflit politique, national. Il y a un règlement politique national. Si vous montez à l'étage en invitant le sacral, je suis avec vous dans la même cage, en tant que musulman, en tant que chrétien. Vous voulez inviter l'histoire, j'inviterai l'histoire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas de règlement. Un règlement de fait ne réglera jamais. On sait qu'on ne peut pas abattre une appartenance identitaire. On peut abattre une appartenance politique, socio-économique et autre. Finalement, sur le Liban. C'est toujours intéressant, le Liban, parce que, bon, comme je disais, c'est un thermomètre et un laboratoire dans le temps. Maintenant, je ne veux pas dire Dieu merci, et ayant l'air d'être méchant, la Syrie a pris le devant de la scène. Donc nous sommes maintenant une chambre d'attente. Tant mieux. Nous ne sommes plus au premier rang. Mais je rappelle de 3 choses. Pourquoi cette explosion? Ce n'est pas une conspiration de George Bush ou de ces, je ne sais pas qui avait hérité le pouvoir. Des choses très simples. Nous faisons une chute libre depuis des années. Depuis 2016, la Banque mondiale nous dit « Votre modèle socio-économique n'est pas pratique. » La Banque mondiale n'est pas le Parti communiste, à ma connaissance. Mais on a un problème structurel terrible. On n'a que le secteur tertiaires, bancaires qui travaillent, qui fonctionnent et tout ça. Et d'autre part, le secteur agricole, industriel, sont dans l'oubli total. Donc, ça, c'est une déstructuration totale. Ça, c'est un problème. Deuxième chose, il n'y a pas de boulot. Et bien sûr, c'est un système structurel de corruption. Pourquoi ? Vous me faites passer ça, je vous fais passer ça. C'est la logique du système consociatif. Je touche pas, je ne peux pas toucher à quelqu'un de votre communauté. Il a une immunité, pas diplomatique, de merci, mais plus importante que diplomatique, politique, identitaire dans ce sens, parce qu'il appartient à ce bec, à ce chef. Nous nous retrouvons dans cette situation aujourd'hui qui est la suivante, très très simplement. Très très simplement. La dette publique, cette année, 2019, est de 152% du point intérieur brut. D'habitude, pour les pays les plus endettés, ça arrive à 50%. 30% de la population libanaise, et là, ça augmente, et ça peut arriver à 40% dans les mois à venir, vivent au seuil, au-dessous du seuil de la pauvreté. 0,1% des Libanais les plus aisés, et ça, c'est une, la dernière étude publiée en France par une économiste libanaise, contrôlent pratiquement 50%, comme les 50 plus pauvres. 0,1% ont un wealth égal à 50%. Ce qui est le plus dangereux, c'est que presque 35 à 36 à 37% de ceux qui ont jusqu'à 25 ans, jeunes, sont au chômage. Et ceux qui travaillent ont besoin d'avoir 2-3 métiers pour vivre. Donc, tous les éléments pour l'explosion. L'économie de rente ne peut pas fonctionner pour toujours. On a besoin de révisionner ça, de revisiter ça. Donc, on a ce niveau. Bien sûr, on s'attend immédiatement à ce que ce problème soit enlevé, kidnappé, j'utilise des termes un peu bruts, et déraillé par la confrontation au sein de la classe politique. Chacun dit « t'es responsable », tout le monde est responsable, dans ce sens-là, de la classe politique. Ce qu'on trouve pour dérailler ça, et deuxième élément à ce niveau-là, que nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore, le Taef, la partition du pouvoir communautaire. Parce que Taef a créé un système plus équilibré, soi-disant profitant aux musulmans pour équilibrer ce qui était une domination chrétienne maronite. Donc, c'est le jeu des chaises musicales. Mais si on rouvre cette boîte de Pandore, nous ne savons pas où on va aller. Donc, voilà ces deux crises maintenant. On se cache derrière son doigt, mais voilà. Certains politisent, on voit parfois une certaine violence par certains partis au Liban parce qu'ils veulent étouffer ce qui est une demande de vie normale. Je dis normale, c'est tout. Et vient sur ça s'incruster le grand problème, je l'ai gardé pour la fin, que le Liban, ça a été toujours son cas, même maintenant, comme étant rattaché à la Syrie, du conflit régional, de cette guerre régionale maintenant, qui suit une escalade énorme. Les Iraniens et leurs amis considèrent que pourquoi ça se produit au Liban et en Irak en même temps ? Pour me casser les ailes, pour m'endiguer, pour me chasser du Levant, où je fais le beau jour et le mauvais jour grâce au président Bush en 2003, qui a offert sur un plateau en argent l'Irak aux Iraniens. C'était un cadeau américain à ne jamais oublier. L'Irak était toujours, entre parenthèses, un mur de Berlin, un facteur d'équilibre contre l'Iran, est devenu un point de passage, une autoroute iranienne vers la Méditerranée, grâce à cette politique américaine très intelligente dans le temps. Et je vous livrerai après, pas un secret, une petite histoire sur ça. Dans les discussions avec les Américains, je vous le dis directement, j'étais en discussion avec le sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, février, un mois avant l'attaque. J'ai dit, permettez-moi, dans une salle, mais soi-disant Chatham House, au Geneva Center for Security Policy, disait, permettez-moi de vous suggérer une chose, d'utiliser un terme médical, ce n'est pas très diplomatique, essayez de décapiter le régime, mais ne touchez pas à la squelette du régime, le système militaro-sécuritaire. Parce que là, vous cassez l'État. Et qu'est-ce qu'il me répond ? Me prenant pour un débile ou me prenant pour je ne sais pas quoi. Mais vous savez, cher ami, cher ambassadeur, regardez l'Allemagne et regardez le Japon. J'ai dit, cher ami, tout Irakien qui a plus de 60 ans aujourd'hui est né avant la création de l'Irak. Et nous vivons le retour des identités meurtrières. Qu'est-ce que vous me racontez ? Nous ne sommes pas dans la phase 50-60 où il y avait des nationalismes laïques. Peut-être un peu extrémistes pour les Occidentaux, mais au moins laïques dans ce sens-là. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on se retrouve. Pourquoi maintenant ? Donc il y a une contre-attaque farouche de la part des Iraniens et de leurs amis pour étouffer ça. Et de l'autre côté, sûrement, tout est politisé. Il faut l'admettre. Certains profitent de cette situation. Mais ce qui se fait, c'est en neutralisant et en déraillant le vrai problème va s'aggraver avec le temps, que ce soit en Irak ou au Liban. Ce qui ajoute au problème de cette guerre régionale par procuration et autres, c'est que ces deux pays maintenant font partie intégrée du théâtre stratégique syrien. Et je réserve mon dernier commentaire avant de passer aux questions. À mon avis, la sortie de crise de la Syrie passe par un projet que la France avait suggéré et que nous, comme individus, nous avions suggéré avant. Un groupe de contact sur la Syrie. Vous savez, quand on va à l'université en première année, on nous apprend qu'on négocie avec son ennemi, on ne négocie pas avec son ami. Je ne veux pas qu'un ennemi devienne comme moi et puis j'accepte de négocier. Je ne dis pas que l'Iran est le Saint-Esprit. Loin de là, il n'y a pas de Saint-Esprit dans ça. L'idée est là, le groupe de contact, c'est d'avoir les pays qui font le beau temps et le mauvais temps en Syrie, qu'ils s'assoient ensemble. Ceux qui disent que l'Iran va être un problème à l'intérieur, absolument, mais ils seront un plus grand problème à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Donc, je me rappelle très bien, le président Macron avait suggéré un groupe de contact. Un groupe de contact a travaillé un tout petit peu d'une manière indirecte, deux séances, avant la venue au pouvoir du président américain qui a voulu écasser l'accord nucléaire 5+1 et se retirer de ça. Donc, finalement, les Russes ont été les plus rusés et les plus intelligents. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, c'est la trilogie du processus d'Astana ou de Sochi, la Russie, l'Iran ou la Turquie, qui se partagent le gâteau. Nous sommes alliés sur cette question et nous sommes ennemis sur cette question. Le maestro de l'équipe musicale, le conducteur, c'est la Russie. Tout le monde passe par la Russie. Ce que je retrouve vraiment d'abominable, malheureusement, et aussi de frustrant, c'est que les Arabes sont entièrement absents de capacité d'influence sur un pays ou l'avenir d'un pays qui est au cœur du monde arabe et qui décidera de l'ordre régional arabe. Je termine en disant que l'ordre régional qui va se créer dans la région, je ne sais pas quand, viendra des rives de la rivière Barada, à Damas. Ça a été toujours le cas. He who controls Syria controls the East. Voilà, je termine sur ça. Je m'excuse si j'avais abusé et je suis prêt peut-être à répondre à des questions ou clarifier certains points. Thank you.